Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 13h50 pour revenir sur l'actualité nationale et internationale de la semaine, un magazine en deux parties. Bienvenue à toutes et à tous. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 2 août 1991, à 1h30 du matin, les premiers chars irakiens entraient au Koweït. L'invasion diligentée par Saddam Hussein provoqua une réplique quasiment immédiate du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est ainsi que commença cette guerre du Golfe dite première menée par les Américains. 30 ans plus tard, quelles sont les plaies toujours à vif dans la région? On en parlera avec nos invités Ferhat Alani et Jean-Paul Chagnolo aux alentours de 13h20. Pour commencer, la mort d'un monstre monolithique posé sur une dalle, le centre commercial Bobigny 2 ferme définitivement ses portes aujourd'hui et le journal Le Parisien aujourd'hui en France est allé y faire un tour il y a quelques jours à la rencontre des commerçants, devenus rares mais qui parlent d'un coup de marteau sur la tête, à la rencontre aussi des clients comme Rachida à la pharmacie qui se rappelle que toute sa famille était venue ici faire la fête à l'inauguration du tout premier IKEA de France, ou ce petit groupe de retraités qui se retrouvent là tous les jours pour discuter parce qu'on les laisse ne prendre qu'un café pour plusieurs heures. Tous répètent cette même phrase « Ici, c'était ma vie ». Si Bobigny 2, ouvert en 1974, était devenu une carcasse vidée de ses entrailles, selon les mots du journaliste, de nouvelles zones commerciales sont toujours en projet en périphérie des villes, un peu partout en France. La Convention citoyenne pour le climat demandait un moratoire sur ces nouvelles constructions. Il a été accepté par Emmanuel Macron, ce qui n'empêche pour l'instant pas certains projets, comme Oxylane à Montpellier, d'avancer à pas de géant, tout comme les entrepôts du commerce en ligne. Nous recevons trois invités pour en parler. Bonjour Alexandre Coulondre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au LATS, qui est le Laboratoire Technique, Territoire et Société à l'Université Paris-Est, et vous travaillez spécifiquement sur les questions du développement urbain. Vous êtes ici en studio avec Adrien Montagu. Bonjour.
Bonjour.
Militant chez les Amis de la Terre et chez Alternatiba à Lyon. Merci également d'être avec nous, ainsi qu'à vous Frédéric Tufnel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne depuis les Charentes, la Charente-Maritime, puisque vous êtes député de la deuxième circonscription de ce département à Rochefort. Vous étiez La République En Marche jusqu'à récemment, mais vous avez rejoint le groupe Écologie, Démocratie et Solidarité. Et vous êtes membre de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. Alors, ce moratoire sur les zones commerciales, il a été annoncé, mais il n'a pas été ni décrété ni promulgué. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, allez Alexandre Coulondre, combien de nouvelles zones commerciales sont en projet aujourd'hui en France? On a une idée à peu près ou pas?
Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais il y en a plusieurs dizaines. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que plusieurs millions de mètres carrés de centres commerciaux sont autorisés chaque année, puisque nous avons en France une législation sur l'urbanisme commercial qui prévoit que des commissions appelées des commissions départementales d'aménagement commercial se réunissent pour autoriser au cas par cas les projets, et ces commissions publient des rapports qui nous permettent de suivre l'évolution des mètres carrés. Et on voit que ces dernières années, on est autour d'un million, un million et demi de mètres carrés autorisés par an. Mais on est loin du pic des années 90 et début 2000, où on était plutôt sur 4 millions de mètres carrés autorisés chaque année.
On parle en mètres carrés, donc ça peut être de nouvelles zones commerciales ou des extensions de nouvelles commerciales et de centres commerciaux, de zones commerciales, je vais y arriver, et on ne sait pas ce que le moratoire exactement va mettre entre parenthèses.
Alors exactement, le moratoire c'est un principe pour l'instant qui n'est pas vraiment, on va dire, concrétisé dans des dispositions précises. Et effectivement, dans ces millions de mètres carrés autorisés, il peut y avoir des extensions ou il peut y avoir des créations. Sachant que si on veut vraiment avoir une idée de l'emprise au sol du commerce et des nouveaux équipements commerciaux, il faut prendre en compte qu'aussi qu'à ces millions de mètres carrés s'ajoute tout un ensemble d'équipements autour, notamment des parkings. Mais il faut aussi retrancher de ce million le fait que certains centres commerciaux sont en étage. Donc c'est relativement difficile de voir l'emprise en fait. Du commerce sur le sol, mais en tout cas, voilà, c'est ces ordres de grandeur.
Frédéric Tufnel, sur votre circonscription, il y a des projets en cours, là, en ce moment?
Il y a des projets en cours, mais bien sûr d'une taille bien plus raisonnable que celle que vous venez d'indiquer. Mais bon, c'est plutôt des délocalisations d'activités, d'espaces de concessionnaires automobiles, par exemple, plutôt en périphérie, et qui grignotent surtout des espaces agricoles et des espaces nature dont nous avons besoin.
C'est toujours sur des. C'est à chaque fois, en tout cas les projets qui sont sur votre circonscription ou dans votre département, la Charente-Maritime, toujours sur des terres agricoles.
Exactement. Et on voit bien que l'enjeu, c'est comment préserver ces zones, puisque le gouvernement s'est quand même engagé sur un objectif, ce qu'on appelle de zéro artificialisation nette.
Oui.
C'est-à-dire un espace urbanisé, c'est un espace aussi rendu à la nature.
Alexandre Coulon, d'ailleurs, les critiques envers les zones commerciales ne sont pas nouvelles, mais est-ce qu'elles se sont toujours portées sur cette question de l'artificialisation des sols ?
Pas du tout. C'est très intéressant ce déplacement du débat, puisque cette posture limitative sur le développement des zones commerciales, portée par l'État, hein, très volontariste sur ces questions, n'est pas récente. On peut la dater au moins des années 1970, date à laquelle la loi Royer a instauré un urbanisme commercial qui a mis en place les commissions dont on parlait tout à l'heure. Et à l'époque, c'était justifié, c'était mis sur l'agenda politique sous l'angle de la défense du petit commerce indépendant qui était très mobilisé à cette période à travers des associations. Aujourd'hui, on a un déplacement de la thématique qui porte davantage sur l'artificialisation des sols. Mais alors, pour revenir sur le moratoire, c'est pas tout à fait nouveau non plus, parce que en 2008, il y a une loi qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie, qui renforçait les commissions départementales et qui prévoyait que siègent dans ces commissions, à côté des responsables politiques locaux, des personnalités qualifiées en matière de développement durable. Donc normalement.
Et qui donnait un veto au préfet ?
Alors, cette commission délivre une autorisation qui est obligatoire pour avoir un permis de construire. Donc c'est vraiment une sanction politique locale très forte et qui devait, depuis 2008, déjà prendre en compte des questions de développement durable.
Adrien Montagu, est-ce qu'on sait si aujourd'hui, réellement, les zones commerciales sont les plus voraces quand on parle d'engloutissement des terres agricoles, d'artificialisation des sols ?
Alors, je vais revenir sur le point qui vient d'être évoqué, mais pour répondre à cette question, effectivement, les zones commerciales ne sont pas le premier facteur d'engloutissement des zones agricoles, c'est principalement l'étalement urbain. Il y avait un rapport de France Stratégie sur le sujet qui évoquait aux alentours de 47% pour l'étalement urbain, et les zones commerciales sont d'un pourcentage nettement moindre, d'une dizaine de pourcents, avec toute zone d'activité confondue. Toutefois, là où je suis pas forcément d'accord, c'est sur l'aspect volontariste de l'État pour préserver les commerces de proximité, puisqu'effectivement, on a évoqué différentes mesures qui ont été mises en place, telles que les commissions locales, sauf que force est de constater que depuis 2018, entre 2018 et entre 2019, 86% des projets de centres commerciaux qui ont été déposés auprès de ces commissions ont été accordés. Et alors même qu'en parallèle, on va avoir un programme qui s'appelle Cœur de Ville, qui a pour velléité d'injecter et de redynamiser en fait les centres-villes.
5 milliards d'euros sur 5 ans.
5 milliards sur 5 ans. Il y a déjà 1,5 milliard qui ont été dépensés, à pure perte de notre point de vue, puisque dans le même temps où ce milliard 5 a été dépensé, les communes concernées, à hauteur de, donc il y avait 220 communes qui avaient été ciblées, et dans les commissions des communes concernées, il y a 81% des communes qui continuent à déployer les centres commerciaux périurbains alors qu'ils sont supposés.
Avec cet argent-là, à votre avis ou pas ?
C'est plus compliqué que ça. Ils essayent un petit peu de jouer là-dessus, mais non.
Alexandre Coulon, est-ce qu'on peut mesurer aujourd'hui la réalité de ce pressentiment, disons, de bon sens selon lequel les zones commerciales ont tué le commerce de centre-ville ? On a des chiffres là-dessus.
Alors ça c'est difficile de répondre à cette question parce que les projets de centres commerciaux s'intègrent dans des projets de territoire plus larges. Et lorsqu'on fait des études où on regarde par exemple le solde de l'emploi dans les petits commerces avant et après, la population, les déplacements, c'est très compliqué d'avoir une mesure toute chose égale par ailleurs parce qu'entre-temps le territoire a changé. Les centres commerciaux sont des éléments fort du territoire qui le transforme. Donc pour voir l'effet pur du centre commercial, c'est relativement compliqué. Et puis ça dépend vraiment des contextes territoriaux. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. La question de la posture, on va dire, limitative portée par l'État, lorsqu'on a dit ça, on n'épuise pas la description du rapport qu'entretient le politique avec le commerce. Ce qu'il faut rajouter, j'ai pas eu le temps de le faire mais je vais le faire maintenant, c'est qu'il y a un très fort découplage entre cette posture nationale et la posture des responsables politiques locaux qui ont bien souvent un rapport plus favorable aux nouveaux projets commerciaux, et c'est bien eux qui siègent dans les commissions.
Et pour cause, Dominique Tufnel, c'est quand même une manne financière pour les élus locaux. Que vous disent ces élus avec lesquels sans doute vous échangez en tant que député, à qui peut-être vous dites que ce serait dommage d'implanter une zone commerciale, mais qui vous parlent des impôts locaux, qui vous parlent de l'État qui leur a imposé une austérité budgétaire? Ils ont besoin de retrouver une manne financière.
Oui, parce que de toute manière, souvent, c'est les collectivités elles-mêmes qui payent toutes les infrastructures de voirie qui sont nécessaires pour l'accessibilité dans ces zones commerciales. Et donc, et c'est donc à la fois aussi les habitants qui, par leurs impôts, paye, en fait, finance le développement des zones commerciales. Et on voit bien qu'il y a aussi un débat, lorsqu'on a vu les municipales qui sont passées dernièrement, ça peut être aussi un sujet pour attirer de l'électorat aussi, parce qu'on a besoin, il y a des gens qui passent des fois leur samedi à aller dans la zone commerciale, il y a des gens qui aiment bien se déplacer pour aller déjeuner dans un restaurant rapide, voilà, et donc c'est aussi des arguments d'emploi créés. Qui séduit souvent les maires quand ils décident d'accueillir un centre commercial, un restaurant rapide, de restauration rapide. Et on sait pourtant que ces emplois qui sont créés en périphérie vont créer une perte d'emplois en centre-ville.
Alexandre Colonna.
Et perdre aussi des commerces de centre-ville. C'est ça le problème, comme vous l'avez dit, par rapport à Action Cœur de Ville. Il faut que c'est fait normalement pour sauver les centres-villes en difficulté.
J'ai l'impression que pour beaucoup de territoires, la consigne de limiter les développements commerciaux, mais les développements en tout genre, constitue en fait une injonction contradictoire parce que de la part de l'État, parce que d'un autre côté, il impose une forte austérité budgétaire, on l'a dit, baisse des dotations générales de fonctionnement, suppression de la taxe professionnelle. Aujourd'hui, on parle de la taxe d'habitation. Or, le moyen le plus simple de continuer à développer un territoire dans ce contexte, c'est de faire du projet immobilier. Pourquoi ? Parce que dans un contexte où on doit se passer des fonds publics, il faut compter sur des fonds privés à travers des partenariats publics-privés. Et promettre de la création de valeur immobilière, c'est un très bon moyen de faire converger ces fonds privés. Donc il y a une forte incitation à faire du projet urbain en tout genre.
En tout cas, ces centres commerciaux, pour certains, ils ont subi de très lourdes pertes économiques avec la crise sanitaire. D'ailleurs, plusieurs enseignes dont les magasins sont souvent dans ces zones commerciales en périphérie des villes ont déposé le bilan ces dernières semaines, que ce soit La Halle aux Vêtements, Conforama, il y a aussi Camailleux, je crois, Courtepaille est en redressement judiciaire. Alors des négociations sont en cours pour un rachat qui devrait le sauver. Bon, c'est toute une partie de ma jeunesse qui s'en va, ça courte paille. C'est un secteur, les zones commerciales, qui étaient déjà en crise avant le coronavirus, Adrien Montagu.
Oui, tout à fait. En fait, on voit qu'il y a un déport de la consommation vers des produits plus responsables, des produits reconditionnés ou des produits de seconde main, puisque les gens prennent de plus en plus en considération l'impact de la production des produits qu'ils consomment. Et quand on s'attache à cette notion du coût écologique de la production des biens, eh bien, de fait, on va essayer de réduire sa consommation. Et là, on a une mutation des progressive de cette consommation-là qui met en péril, bien avant la crise du Covid, les modèles de produits peu cher pour renouveler très régulièrement ces biens de conso.
Ça fait déjà longtemps, Alexandre Coulondre, que on peut s'arrêter parfois dans un centre commercial et ne voir personne, ne croiser personne.
Effectivement, il y a un niveau de vacances des locaux commerciaux dans les centres commerciaux qui ont tendance à augmenter.
Combien à peu près, on sait ? Alors, c'est plus même que ceux dans les centres-villes, je crois,
oui,
aujourd'hui.
Oui, alors ça dépend des contextes territoriaux, mais on est entre 5 et 10% à peu près, selon les zones. Des zones très, très attractives, très dynamiques, comme le centre des métropoles, ne sont pas concernées par ça. Voilà, donc ça c'est, on a une baisse tendancielle de toute façon des niveaux de consommation. Alors il y a une transformation des modèles de consommation, mais aussi du volume de consommation. On a une consommation en berne depuis quelques temps en France. Et pourtant, on a tendance, c'est vrai, à continuer à produire des surfaces commerciales.
Pourtant, 83 000 mètres carrés de nouvelles surfaces de centres commerciaux, rien qu'au premier semestre 2018, ce sont les chiffres les plus récents qu'on ait trouvés. Et des centres commerciaux qu'on nous promet de nouvelles générations, Adrien Montagu, comme une nouvelle stratégie des enseignes pour attirer du monde, comme ce centre Auxilane près de Montpellier, le tribunal administratif vient de rejeter un recours déposé par les associations environnementales, donc on a l'impression que ce moratoire, il est quand même encore loin. Vous en pensez quoi de ce centre? Ce projet Auxilane, où on nous disait encore il y a quelque temps des espaces verts, c'est Décathlon qui est à la manœuvre, des espaces verts. On va combiner développement durable et économique, nous disait-on.
Effectivement, ça me fait sourire puisque c'est le discours que l'on entend au gouvernement depuis le début du quinquennat et c'est quand même assez déplorable puisqu'il est très difficile d'associer développement agressif écologie. Donc je connais pas bien le dossier que vous évoquez sur Montpellier. Toutefois,
c'est à Saint-Clément-de-Rivière, c'est à 3 km de Montpellier, c'est Décathlon qui se porte acquéreur de 24 hectares d'un terrain agricole.
Mais quand on évoque des centres commerciaux de nouvelle génération, c'est un petit peu dans cette approche de course au progrès, au toujours plus. Donc on va peut-être parler de centres commerciaux connectés avec des interactions facilitées pour les clients, etc., etc. C'est une fuite en avant que l'on critique vertement. Et je voudrais juste revenir en fait sur le niveau de consommation quand même, parce que c'est certes il en berne, mais aujourd'hui il est catastrophique, puisque on met sur le marché environ 39 vêtements par habitant et plus de... Et
39 vêtements par habitant,
ouais, 39 vêtements par habitant par an et à peu près 13 produits électroniques par an et par habitant. Pourquoi ? Puisqu'en fait, comme on est dans un marché qui est saturé, on va être obligé de produire toujours plus pour gagner des parts de marché et par des phénomènes de dumping sur les prix, inciter à la consommation alors que les gens sont d'ores et déjà équipés en biens en fait. Et c'est cette surproduction que l'on critique le plus, puisqu'en fait on sait aujourd'hui que dans l'empreinte carbone de la France, la part qui est importée est considérable. Elle pèse à peu près un quart, juste pour le textile et l'électronique, c'est un quart de l'empreinte carbone importée, et quand on sait qu'on va devoir s'aligner théoriquement avec les accords de Paris, il faudrait qu'on réduise de 10 la mise sur le marché de produits textiles et de 3 la mise sur le marché de produits électroniques. Donc, dire que la consommation est en berne, ben alors, entre guillemets, tant mieux, mais ce n'est pas suffisant en fait. Hein, il faut vraiment s'y atteler encore plus. Donc, comment, par rapport à ça, les commerces vont pouvoir s'adapter pour pouvoir survivre et... Quand je dis commerce, je dis commerce de centre-ville parce qu'ils apportent un gain de résilience. C'est des acteurs qui jouent un rôle social important. C'est là où il va falloir se poser des questions et pas développer des centres périurbains qui maximisent le déplacement en voiture individualisée, etc., etc.
Modèle d'ailleurs dépassé, parce que je crois qu'on va pas mal aujourd'hui au centre commercial en bus, en transport en commun, selon certaines études menées ici et là, alors qu'en effet, les zones commerciales ont été construites pour beaucoup à une époque où la voiture était reine. Dans un entretien récent au journal Le Monde, c'était cette semaine, la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, parle d'un fonds de plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour réhabiliter des centaines d'hectares de friches industrielles et permettre aux industriels et aux commerces de s'y installer. En quoi ça peut régler le problème du petit commerce, Alexandre Coulondre ?
Alors, le problème du petit commerce, je pense qu'il dépasse l'aspect urbain et l'aspect développement. Il y a une transformation des modèles de consommation qui pèse sur lui, des questions d'approvisionnement, d'accès à la clientèle. Cette approche qui consiste à transformer des friches industrielles, je pense, va plus dans le sens des enjeux écologiques du territoire. C'est-à-dire qu'on est dans une, on va dire, une posture, enfin un argument qui est de dire le zéro artificialisation net, qui dérive de 2018 notamment du plan national biodiversité, où l'idée c'est d'arriver à un développement urbain qui soit neutre en artificialisation d'espace, c'est-à-dire soit en réduisant la façon dont on a de transformer des terrains naturels, agricoles ou forestiers en terrains artificialisés, ou alors de reconvertir des terrains qui sont déjà artificialisés. Donc c'est toute la question de la reconversion des friches qui est un grand sujet pour le commerce, mais plus généralement pour tout le développement urbain. Voilà, aujourd'hui, si on veut, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'artificialisation des sols, aujourd'hui on a un observatoire national de l'artificialisation des sols qui évalue à peu près l'artificialisation des sols à 23 000 hectares, hein, donc 230 millions de mètres carrés.
Bon. Par an ?
Par an.
Non, en tout.
Oui, par an. Sur ces dernières années, c'est le chiffre de 2018. Si on veut, pour revenir sur la question du développement du commerce, avoir une idée de ce que représente le commerce là-dedans, on l'a dit, c'est à peu près 1,5 million, voire 2 millions, on peut aller jusqu'à 3 millions si on prend en compte les parkings, etc. Mais on est de cet ordre de grandeur-là. C'est-à-dire que c'est un sujet, bien sûr, si on veut à viser la zéro artificialisation nette, il faut traiter tous les sujets, mais ce n'est peut-être pas le sujet prioritaire, en tout cas sur l'angle écologique. Il est important, mais c'est peut-être pas le principal.
Alors, on disait tout à l'heure que la crise sanitaire avait affecté de nombreuses enseignes familières de ces zones commerciales. Pour d'autres, en revanche, ça a été, disons, une aubaine, entre guillemets. Ce sont les sites de commerce en ligne. 86% des commerces de proximité fermés pendant 8 semaines. Et voilà les consommateurs qui se ruent, pour certains, sur ces plateformes, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 83% en avril, d'après la députée et ex-ministre Delphine Batho, qui est à l'origine, début juin, d'une proposition de loi pour un moratoire sur l'implantation de nouveaux entrepôts logistiques du commerce en ligne. Proposition de loi qui cible essentiellement Amazon et que vous avez porté aussi, Frédéric Tufnel. Est-ce qu'on sait combien d'entrepôts la multinationale est en train d'installer aujourd'hui en France ?
Le chiffre exact, je n'ai pas le chiffre, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est des mètres carrés de surface énormes. énorme. Et on voit bien que ça va complètement à l'encontre de la relocalisation de notre économie qui a été demandée par tous les habitants, tous les Français, lors de la crise sanitaire. Ils ont quand même pourtant de chez eux, voilà, commander, fait des commandes en ligne. On voit que c'est un nouveau mode de consommation, d'une manière croissante, puisque il y a eu quand même énormément de, ça s'est substitué en fait au commerce de proximité. Et en parallèle, le paradoxe, c'est ça, c'est que nous avons besoin aussi de retrouver une souveraineté alimentaire. On a besoin d'avoir de plus de proximité, et donc il va falloir réfléchir à la manière d'organiser peut-être demain. Peut-être le secteur de l'alimentation, le secteur du commerce, pour permettre aussi à ces entreprises, eh bien, d'avoir un tissu économique, social, qui permette d'avoir des liens sur le numérique, de commandes en ligne également, de travailler sur le dernier kilomètre dont on parle souvent. Voilà, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut mettre en place, et ça, c'est au gouvernement de donner un cadre général pour s'engager dans ces commerces de proximité.
La ministre de l'écologie, Barbara Pompili, dit qu'on ne peut pas empêcher le commerce en ligne. Il fait partie, dit-elle, de l'évolution de l'économie, mais en revanche, ajoute-elle, on ne peut pas laisser se construire des entrepôts d'e-commerce partout de façon désordonnée, pas si désordonnée que ça, puisque ça se fait en concertation en général avec les élus locaux. Bonjour Michel Habigue.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes le maire d'Hiverdroite d'Ensisheim, c'est dans le Haut-Rhin, où une plateforme de commerce en ligne va acquérir 190 000 m2 donc d'entrepôts logistiques. Est-ce que déjà vous pouvez nous confirmer qu'il s'agit bien d'Amazon ? Parce que tout est très mystérieux.
Ah oui, mais toujours. Les porteurs de projets ne disent jamais pour qui ils travaillent. Donc c'est un entrepôt de 45 000 m2, hein, donc sur une parcelle de 19 hectares. Voilà, nous savons que c'est un entrepôt d'e-commerce, mais pour savoir qui va l'exploiter par la suite, je ne peux pas vous dire que c'est Amazon.
Donc vous-même ne le savez pas. Ça vous, en tant qu'élu local, en tant que maire, vous trouvez ça normal de ne pas savoir? D'ailleurs, vous avez cherché à savoir?
Ah, mais nous avons demandé des garanties. Nous développons une zone d'activité. Elle fait 100 hectares. Elle est inscrite dans les documents d'urbanisme depuis près de 20 ans. Donc c'était une zone d'intérêt départemental suite à la fermeture des mines de potasse d'Alsace et qui reprend son intérêt aujourd'hui avec la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Donc voilà, c'est une zone qui est située à 400-500 mètres d'un échangeur de l'autoroute qui fait donc la liaison entre
la 35.
Le nord et le sud de l'Alsace. Donc c'est très bien placé. Donc voilà, nous sommes assez sollicités par ces promoteurs de surface recherchant des pour pouvoir faire de la logistique. L'e-commerce, ça participe à toute cette tendance actuelle de la logistique. Nous, on aimerait bien que ce soit de l'industrie, que ce soit de la recherche, développement, que ce soit beaucoup de choses. Mais pour l'instant, pour ceux qui développent qui nous proposent de l'emploi, ben, ce sont souvent de la logistique ou de la logistique renversée où on prend des produits, on les réhabilite. Donc notre demande, nous, c'est 50 emplois à l'hectare. Et donc avec cet entrepôt, on nous promet 500 emplois. Donc ils remplissent très largement nos
ils vous les ont promis, ils vous ont parlé 500 emplois, évidemment ils vous ont pas précisé si ce serait du CDI, de l'intérim, etc. Mais en tout cas, ils vous ont promis 500 emplois.
Oui. C'est minimum, hein, donc ça varie entre 500 et 1000 emplois. Si on regarde un peu ce qui se passe dans d'autres entrepôts, Amazon, si vous voulez parler d'Amazon, ben c'est à peu près la jauge. Donc ce soit à moitié des emplois de bas niveau, mais il en faut parce que nous avons une population qui est en recherche d'emploi. Et l'autre moitié, c'est souvent des électromécaniciens, parce qu'à l'intérieur de ces bâtiments, il y a quand même de la logistique et beaucoup d'électromécanique qui est installée. Mais ce sont des investissements qui sont extrêmement lourds. Donc voilà.
Michel Habigue, cet entrepôt va donc s'installer sur, comme vous le disiez, une parcelle de 19 hectares qui existait, qui déjà était, n'était plus des terres agricoles. Vous avez connu, et d'ailleurs vous êtes un ancien agriculteur, Michel Habigue.
Tout à fait. Ouais. C'est un espace agricole, mais qui a été inscrit dans les documents d'urbanisme, dans les schémas directeurs, dans les SCOT, dans le poste de notre ville, dans les différents PLU, trois PLU. Donc,
en quelle année, alors?
Par rapport à cette élaboration de cette zone, au moins une dizaine d'enquêtes publiques. Et toujours, il n'y a pas eu de trop grande contestation.
Mais d'ailleurs, votre parcours est intéressant parce que vous êtes un ancien agriculteur et vous présidez la communauté de communes du Centre Haut-Rhin depuis 2003. Donc vous avez aussi contribué à implanter ce parc d'activité dit de la plaine d'Alsace en lieu et place des champs de maïs, de luzerne et de soja, si je ne me trompe pas. Ça a été dur pour vous quand même, ancien agriculteur, d'accepter le faire venir. Vous l'avez fait avec le ventre noué.
Oui, un peu, parce que c'est pour ça que nous avons mis les 50 emplois à l'hectare. Nous souhaitons densifier. Hein. Là, c'est au chausse-pied. Hein. L'ensemble des implantations d'entreprises, elles se font aujourd'hui, alors qu'il y a encore une dizaine, quinzaine d'années, il y avait de la marge, parce qu'il y avait toujours espoir de développer et de rentrer dans différentes tranches. Donc aujourd'hui, c'est vraiment au chausse-pied. Il y a du parking, il y a les bâtiments. Et d'espace vert, puisqu'on tient également ce qu'il y a un peu d'espace vert autour de ces entreprises. On essaie de monter. Il n'existe pas d'autres grands ensembles à proposer dans tout le sud de l'Alsace, par exemple. Tout le reste, ce sont des friches industrielles qui sont souvent en centre-ville, et lorsqu'elles sont réhabilitées, elles sont réhabilitées en logement, mais pour de l'activité d'entreprise et industrielle ou autre, c'est très difficile. Merci. De pouvoir réhabiliter.
Merci, Michel Abig.
Couverture des sites, des friches industrielles.
Merci beaucoup. Restez avec nous si vous le voulez bien, peut-être parce que nos invités veulent réagir. Alors peut-être voudrez-vous à nouveau répondre, Michel Abig. Adrien Montagu, je me tourne vers vous. Il y a eu quand même une enquête publique sur ce projet-là. Le commissaire enquêteur n'a rien trouvé à redire en disant notamment que ces espaces agricoles, ils étaient de toute façon déjà consommés, que l'autoroute pas loin était globalement fuite. Donc les 611 voitures et 300 poids lourds prévus par jour pourront circuler librement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là?
Alors déjà, premier point, il y a eu des avis aux alentours de 300 qui se sont révélés être négatifs dans le cadre de l'enquête publique de l'entrepôt de NC-Sign. Donc ne dire qu'il n'y a pas eu d'avis de contestation, c'est quand même un poil fallacieux. Ensuite, sur le côté des terres qui sont effectivement déjà comprises dans les PLU comme étant des zones constructibles, c'est là où nous on conteste le peu d'ambition du moratoire tel qu'il est proposé, puisque il faudrait qu'il intègre, qu'il revienne justement sur ces terres arables qui sont aujourd'hui potentiellement vivrières et qui ont par le passé été mises en zone constructible. Donc le moratoire devrait revenir sur ce point-là. Le moratoire devrait intégrer les entrepôts du e-commerce puisque ce n'est pas le cas.
Mais là, si c'est déjà construit, on fait quoi? On déconstruit? On enlève?
Là, pour le coup, c'est des terres arables dont on parle. Il n'y a pas, en fait, les terres ne sont pas construites. Elles sont considérées comme construites puisqu'elles sont en zone constructible. Mais là, en grosso modo, si on voulait aller planter des patates dessus, ça serait possible. Donc il faut vraiment quand même faire la distinction entre zone constructible et terre d'ores et déjà bétonnée, puisque les terres qui ne le sont pas devraient être sanctuarisées par rapport aux enjeux auxquels on va devoir faire face. Le réchauffement climatique va avoir des incidences sur notre productivité agricole, etc. Il y a vraiment des enjeux fondamentaux là-dessus.
Michel Abig, je vous laisse répondre avant de vous laisser. C'est vrai que la préfecture du Haut-Rhin aussi, qui avait saisi en octobre l'autorité environnementale du Grand Est, pointait des insuffisances du dossier. En fait, c'est l'autorité environnementale qui pointait ces insuffisances et qui disait en gros que si les décideurs étaient mieux informés, mais ils ne s'engageraient peut-être pas dans de tels projets. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu toutes les informations, et notamment la question des terres agricoles que vient de soulever Adrien Montagu?
Oui, tout à fait. Et puis les propriétaires exploitants agricoles, il n'y a pas eu aucune expropriation, donc tout s'est bien passé.
Oui, mais au-delà de ça, il y a la question environnementale.
Sur la réaction par rapport à l'enquête publique, oui, il y a eu à peu près 300 participations, mais c'était du copier-coller qui venait de pratiquement toute la France. J'affirme que sur le local, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui ont contesté et qui ont posé des questions par rapport à cette implantation. Sur le sur le reste, c'est de la contestation qui a été organisée. On a essayé d'organiser un buzz lorsqu'on a su et appris qu'il y aurait peut-être une implantation d'Amazon à Ensisheim.
Merci beaucoup, Michel Abigmer d'Ensisheim, d'avoir été avec nous.
Il y a les adeptes de la décroissance et les autres qui essayent d'apporter de l'emploi à nos jeunes. Je peux vous dire que depuis qu'il est passé, qu'il y a eu cette espèce de polémique à Ensisheim par rapport à Amazon, ça n'arrête pas de sonner à la mairie d'Ensisheim avec des jeunes et d'autres personnes qui sont à la recherche d'emploi et qui demandent une place, et qu'on leur réserve une place dans cette entreprise.
Les personnes qui n'ont pas de qualification, les jeunes qui sortent de BTS, évidemment, ça peut les intéresser. Merci beaucoup, Michel Abig, maire d'Ensisheim, d'avoir été avec nous. Alexandre Coulondre.
Oui, alors cette question du développement des entrepôts logistiques est particulièrement intéressante de mon point de vue, parce qu'on a l'impression de se retrouver dans les années 1970 quand on parlait des hypermarchés. C'est exactement le même principe. Et donc on a mis en place tout un ensemble d'outils de régulation. Et là, d'ailleurs, Madame Tufnel, je crois, a fait une proposition de loi, en tout cas a participé à une proposition de loi, qui consiste à réintégrer les entrepôts logistiques dans l'urbanisme commercial et dans les outils de régulation de l'urbanisme commercial. Mmh. Moi, la question qui me vient, et on voit par rapport au témoignage, c'est comment vont recevoir les élus des territoires cette nouvelle façon de réguler. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pour tout le développement immobilier, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une forte volonté au niveau national, mais les contraintes qui sont celles des élus locaux font que il y a souvent un désajustement au niveau local et des élus qui sont plutôt favorables au développement. Frédéric. Même s'ils ont des outils de régulation, ils les utilisent pas forcément dans le sens d'une limitation.
Frédéric Tufnel, qu'est-ce que vous allez leur répondre à ces élus locaux là qui vont vous dire que comme vous venez d'entendre Michel Abig le dire, localement les oppositions sont très peu fortes.
Oui, les oppositions sont très peu fortes, mais en attendant, je veux dire qu'il faut avoir une conscience quand même maintenant de la rareté du sol. Je veux dire que les élus doivent réfléchir sur un projet de développement territorial qui soit complètement différent. On a besoin, d'abord, on n'en a même pas parlé, mais c'est tout à fait contraire à l'impératif aussi à l'urgence écologique. Ces grands centres commerciaux qui s'installent, ces entrepôts...
Si, on en a parlé quand même.
Oui, un peu, mais je veux dire que par rapport aux objectifs qui sont donnés sur les accords de Paris, les réductions des gaz à effet de serre, on est sur un modèle qui est basé uniquement sur le consumérisme, le gaspillage de produits commandés, qui sont vite jetés, loin des principes de sobriété, et on voit bien que on fait simplement du greenwashing en mettant un espace vert et quelques oiseaux pour satisfaire les exigences des naturalistes ou des gens qui sont un peu écologistes.
Et est-ce que le gouvernement fait du greenwashing? Parce que si on reprend Emmanuel Macron, il avait d'abord quand même dans un premier temps envisager d'assouplir les normes pour autoriser la création de méga entrepôts avec des capacités de stockage allant jusqu'à 3 millions de mètres cubes.
C'est la raison pour laquelle on veut absolument passer cette proposition de loi, parce que vraiment elle est vertueuse, elle répond au bilan écologique environnemental qui est aujourd'hui nécessaire, et on le voit bien parce que c'est ce tissu économique qui est fabriqué par ces grandes enseignes, eh bien, ne doit plus perdurer. Il faut qu'on arrive à se recentrer sur le centre-ville, revenir sur les commerces de proximité, comme je disais tout à l'heure. Et puis, il y a des actions à la fois réglementaires et législatives. Construire différemment, végétaliser, augmenter le secteur de l'habitat, c'est-à-dire aussi augmenter peut-être la densification dans les centres-villes pour permettre justement aux gens de s'installer et au lieu de grignoter, parce qu'on a parlé des centres commerciaux, mais il y a aussi tous les petits lotissements qui grignotent, on parle de l'artificialisation des sols, mais qui grignotent quand même ces terres agricoles. Multiplier par 3 au moins la densité moyenne du bâti, c'est ce qui était annoncé. Renouveler aussi le renouvellement urbain dans les centres-villes, et ça c'est l'action qui est faite par le ministère, qui vraiment est acteur vraiment pour aider les collectivités locales à se recentrer, à traiter les propriétés dégradées. Et puis, remettre aussi
en
les entreprises...
En quelques mots, s'il vous plaît. Oui.
Et remettre les entreprises au sein des centres-villes pour rapprocher le bassin de vie du bassin d'emploi et le bassin de consommation.
Adrien Montagu. Sinon, on peut aussi se dire que ces entrepôts, ils n'ont qu'à utiliser les locaux des zones commerciales qui sont en train d'être désaffectées, et puis tout le monde est content ou pas?
Voilà, ça serait fabuleux, et puis donc on aurait résolu le problème, sauf que nous, on n'est pas là pour discuter vraiment de l'emprise au sol des entrepôts, on est là pour parler de leur empreinte écologique globale, et celle-ci, elle est complètement occultée, puisque quand on a en fait des abonnements Prime qui incitent à consommer deux fois plus pour rentabiliser l'abonnement, forcément on va être dans une approche d'incitation à la surconsommation, et de fait, aujourd'hui, on est dans des des considérations de surproduction, alors que chaque année, la terre vit à crédit écologique aux alentours du printemps.
Donc. Sauf qu'il y a des petits commerces qui se sauvent aussi en souscrivant à Amazon et en vendant leurs produits.
Alors ça, c'est l'argument un peu qu'on donne aussi, comme quoi ça favorise les PME. Aujourd'hui, les PME en France, c'est de l'ordre de 4,7% sur la plateforme Amazon. Le reste, c'est des vendeurs tiers étrangers, dont la plupart, soit dit en passant, ne payent pas la TVA, puisqu'il y en a à peu près 98% qui ne payent pas la TVA. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que l'État se désengage des territoires, vend les meubles que sont les terres arables au profit d'entreprises telles que Amazon ou Alibaba, et celles-ci ne participent pas à l'effort qui devrait être fait pour renflouer les caisses de l'État, à juste titre. Et donc on a un phénomène...
Et la taxe GAFA ?
La taxe GAFA, c'était une vaste blague, effectivement, puisqu'on voit qu'Amazon s'en est défaussé en reportant la taxe sur les vendeurs français. Donc, enfin, vraiment, on n'est pas là vraiment contre Amazon, on est là contre le modèle que porte Amazon, qui est en complète opposition avec tout bon sens de développement écologique, en fait.
Eh bien, merci à vous trois d'être venus dans nos studios pour en débattre et en discuter aujourd'hui. Adrien Montagu, je rappelle que vous êtes militant chez les Amis de la Terre et Alternativa à Lyon. Alexandre Coulonde, vous êtes chercheur associé au LATS, le Laboratoire Technique, Territoire et Société. Et merci Frédéric Tufnel d'avoir été en ligne avec nous, député de Charente-Maritime, groupe Écologie, Démocratie et Solidarité. Merci à vous trois. Dans un instant, sur le magazine du week-end, les plaies toujours ouvertes de la guerre du Golfe. magazine du week-end. Il est 13h19.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
À Bagdad, jeudi, nous avons traversé une forêt de vitres grises plus haut que les cris et nous traînons le pas. Des refuges de glaises et de braises dans les mots, des femmes traversent les jardins sauvages où sont les plaies. Extrait d'un poème de Chokhi Abdelhamir, écrit en février 1991 alors que se terminait la guerre du Golfe dite première. Tout commence il y a 30 ans jour pour jour, le 2 août 1991, à 1h30 du matin, quand les troupes irakiennes de Saddam Hussein envahissent le Koweït, le début d'un engrenage qui conduit à l'entrée en guerre, le 17 janvier 1991, des États-Unis et d'une large coalition de 34 pays. Peu de temps avant de lancer l'opération Tempête du désert, le président George Bush père avait assuré que, je le cite, « de cette période difficile, un nouvel ordre mondial peut voir le jour ». Est-on dans ce nouvel ordre mondial et ressemble-t-il à ce que les États-Unis avaient imaginé alors. Bonjour Jean-Paul Chianulo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour en parler. Vous êtes le président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Vous êtes également le directeur de la revue Confluence Méditerranée. Et nous sommes également en ligne avec Ferhat Alani. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup. Alors je crois qu'il y a de l'écho derrière vous. Peut-être avez-vous un poste de radio allumé, on va voir ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, grand reporter franco-irakien. Vous venez de faire paraître un nouveau roman graphique, Fallujah, ma campagne perdue aux éditions Les Escales. Et votre précédent roman graphique, comme on dit, Le Parfum d'Irak, a été récompensé l'année dernière du prix Albert Londres. Livre où vous racontiez notamment comment vous avez commencé votre carrière journalistique en 2003, après avoir découvert les bombardements américains en Irak à la télévision. Mais d'abord, on va revenir au premier bombardement américain sur l'Irak. Vous aviez 10 ans en 1990, vous vivez alors en région parisienne, mais vous avez le souvenir de cette date du 2 août 90 à laquelle Saddam Hussein envahit le Koweït. Vous vous rappelez ce jour-là ?
Je m'en rappelle comme si c'était hier. Exceptionnellement, on avait reçu de la famille d'Irak. Il était très rare pour eux de pouvoir voyager à l'époque. Et à peine arrivé, on voit cette nouvelle en direct à la télévision. Et là, ça a été un choc. Je me souviens très bien avoir vu l'une de mes cousines éclater en sanglots parce qu'elle avait vu la situation venir. Et pour elle, c'était la fin. C'était la fin et le début d'un chaos qui, effectivement... ne s'est jamais arrêté depuis.
D'ailleurs, Jean-Paul Chianulo, est-ce que c'est juste de faire démarrer la guerre du Golfe à cette date-là, le 2 août 90, ou c'est déjà un parti pris ?
Vous savez, elle a éclaté concrètement le 2 août 90, mais les prémices sont évidemment bien antérieures et tout dépend ensuite de l'analyse qu'on peut faire. Si on examine les raisons pour lesquelles il y a eu ce conflit, il y a évidemment des dimensions pétrolières et puis il ne faut pas oublier que 2 ans plus tôt s'arrêtait la guerre entre l'Iran et l'Irak, que l'Irak avait provoqué. Et donc il est bien clair qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé à la fin de cette guerre Irak-Iran qui a été absolument tragique pour le Moyen-Orient. Il y a eu des centaines de milliers de morts entre les Iraniens et les Irakiens. Et d'une certaine manière, cette invasion du Koweït le 2 août est quelque part le prolongement de cette guerre parce que, en fait, Saddam Hussein voulait récupérer l'argent qu'on lui devait. En fait, il avait été soutenu sur le plan financier par le Koweït, par l'Arabie Saoudite, et il ne voulait pas assumer cette dette. Donc il a fait ça. Et puis il y a une autre dimension alors qui nous fait remonter encore beaucoup plus loin en arrière, c'est la dimension territoriale. C'est-à-dire que l'Irak n'a jamais vraiment accepté que ce pays n'ait pas accès au Golfe Persique. Il est coincé dans le Chatt al-Arab dont on parlera. Donc vous voyez, alors après on peut dire voilà, ça a commencé à tel moment, mais le 2 août, c'est le moment où, effectivement, il y a l'invasion. Et moi, ce jour-là, j'étais en train de discuter en Tunisie avec le patron de la Ligue arabe à Paris, qui était complètement étonné lui-même, alors qu'il était au cœur des décisions, et qui a passé son temps devant moi à téléphoner à différentes ambassades arabes pour faire en sorte que la question reste au sein du monde arabe. C'est-à-dire que la Ligue arabe puisse s'emparer de cette question et freiner Saddam Hussein. En réalité, évidemment, il a échoué. C'est très vite devenu une question internationale.
La question a débordé bien au-delà puisque le 29 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU fixe un ultimatum à l'Irak. Il autorise le recours à la force à partir du 15 janvier si les discussions avec le régime irakien n'avancent pas. Or, elles n'avancent pas et le 16 janvier, les Français peuvent entendre leur président annoncer l'implication du pays à l'opération Tempête du désert auprès des États-Unis.
Depuis ce matin,
le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Tout repose désormais sur les soldats des 29 nations alliées dont les forces sont en place dans le Golfe et pour ce qui nous concerne, sur notre cohésion nationale. La patrie fera face aux heures difficiles qui s'annoncent en préservant son unité. Je compte sur vous tous. Vive la République, vive la France.
Frédéric Mitterrand, le 16 janvier 1991, Ferhat Talani, et je dois préciser que vous êtes à Dubaï, d'où le léger retard parfois dans vos propos. Votre père est un exilé politique, adversaire de Saddam Hussein, mais comment réagit-il à ce qui est une invasion de son pays? Vous, vous êtes un enfant né en France, mais lui, comment réagit-il?
Oui, tout à fait. Donc, je suis né en France. Mon père était un opposant politique, comme beaucoup d'Irakiens à l'époque. Il avait quitté l'Irak en 1972. Alors que Saddam Hussein n'était pas encore le président du pays, mais il tenait les rênes de la sécurité du pays. Et il était déjà en train de traquer les opposants, dont mon père. Donc mon père est, comme beaucoup d'Irakiens, exilé, réfugié politique et un adversaire de Saddam Hussein. Mais il se trouve que à ce moment-là, mon père, qui était quand même quelqu'un qui connaissait très bien son pays et qui était un militant politique, avait bien compris que la question de l'intervention de l'ONU en Irak allait bien plus loin qu'une question juridique. Et que je tiens aussi à préciser que ce n'est pas parce que cette intervention s'est déroulée avec l'aval de l'ONU qu'elle était tout à fait légitime. Évidemment, envahir un pays, c'est quelque chose d'illégal et d'atroce, mais on ne peut pas occulter aussi les différents faits, et en l'occurrence, comme le disait monsieur tout à l'heure, l'Irak sortait d'un conflit de 8 ans, exsangue économiquement dans une situation désastreuse, avec des dettes que l'Irak a cherché à rembourser, mais il se trouve que le Koweït et l'Arabie Saoudite n'avaient pas respecté les quotas d'exportation du pétrole, ce qui a fait chuter les prix et qui a poussé Saddam Hussein dans ses retranchements et qui, malgré des tentatives de négociation avec eux, a fait le choix terrible d'envahir le Koweït. Mais donc, pour répondre à vos questions, mon père était, pour le coup, très conscient de cette intervention qui, selon lui, était tout à fait illégitime et illégale, moralement, je veux dire. Et donc, il était contre cette intervention.
C'est vrai, Jean-Paul Chianullo, qu'on peut souligner le paradoxe de la position américaine qui, pendant longtemps, les États-Unis ont soutenu financièrement le régime de Saddam Hussein. En tout cas, ils se portaient garant de la solvabilité du régime, notamment dans les prêts que Saddam Hussein avait contractés auprès des monarchies du Golfe, mais qui, en même temps, poussaient le Koweït à réclamer son dû. À partir de quand les États-Unis ont changé de braquet, en fait, par rapport à l'Irak de Saddam Hussein?
En fait, c'est les États-Unis et c'est l'Occident de manière globale, c'est-à-dire que depuis l'arrivée au pouvoir, pas simplement quand il est président de la République, mais dès le début des années 70, comme ça a été évoqué tout à l'heure, en fait l'Occident soutient Saddam Hussein sur tous les plans, parce qu'il donne l'aspect d'un personnage laïque, moderne,
capétien.
Évidemment, il est à la tête d'un État puissant et riche, donc il y a tous ces éléments, et donc l'Occident va accompagner largement, sans regarder la réalité des droits de l'homme, sans regarder ce qui se passe dès les années 70, c'est-à-dire la persécution de tous les opposants, et puis des chiites et des kurdes. Enfin, c'est vraiment une situation qui démarre depuis cette époque-là, tout début. Hein. Il a commencé d'ailleurs par liquider ses propres amis, entre guillemets, politiques, dans un fameux congrès en 1979. Donc on a ces dimensions, et c'est vrai qu'à partir de là, Saddam Hussein était sans doute convaincu que les Occidentaux iraient jusqu'au bout dans leur soutien. Je crois qu'il y a eu quelque chose de cet ordre. On parle souvent d'une fameuse discussion entre une ambassadrice américaine à Bagdad et puis Saddam Hussein. Saddam Hussein aurait compris qu'il avait un feu vert. Tout ceci reste à voir. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, il pouvait penser qu'il avait ce soutien. Mais là, il a franchi une ligne jaune. une ligne rouge, comme on voudra, pour la couleur. Alors, ce qui est clair, c'est que l'agression contre le Koweït est absolument contraire au droit international. Alors, sur ce qui vient d'être dit sur l'égal légitime, alors on ne va pas entrer dans un débat juridique, sur la légitimité, c'est une question de point de vue, chacun va avoir son avis, et on peut débattre sur la légitimité, être pour ou être contre. Par contre, sur la légalité, il faut bien comprendre que, comme il y a violation caractéristique du droit international, et on y reviendra tout à l'heure peut-être à propos de la conférence de Madrid, si vous voulez, donc puisqu'il y a violation caractéristique du droit international, le Conseil de sécurité a utilisé un chapitre très important, qui est le chapitre 7, pour autoriser tous les moyens nécessaires pour empêcher que cette agression reste impunie. Et on connaît la suite. Donc il faut bien voir que sur le plan de la légalité, du coup, là, c'est un des rares cas où invasion a été punie par le Conseil de sécurité. Mais une fois encore, il faut bien distinguer légalité et légitimité. Légitimité, on peut parfaitement estimer qu'elle était illégitime. Le débat est ouvert.
Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, elles ne prévoient pas la chute de Saddam Hussein. Mais pour autant, est-ce que les États-Unis voulaient faire tomber Saddam Hussein, Ferhat Alani? Ils en auraient eu les moyens. Ils auraient eu les moyens de le faire. Ils ne l'ont pas fait.
Oui, tout à fait. Alors d'abord, j'aimerais vraiment répondre au monsieur. Je suis tout à fait d'accord. Au niveau juridique, c'était, justifié par cette décision. Et je parlais vraiment de la légitimité, effectivement, qui reste un point de vue. Cette résolution de l'ONU a quand même permis le bombardement de toutes les infrastructures du pays, alors que l'objectif initial était de faire partir les troupes irakiennes du Koweït. Et ça ne s'est pas arrêté là, malheureusement. C'est dans ce sens-là que je précisais que moralement, on pouvait contester cette intervention. Et pour moi, c'est assez important parce que tout part de là. C'est-à-dire que la chute de l'Irak, suite effectivement à cette invasion illégale et qui a été donc réprimée, est indispensable quand on veut comprendre la chute de l'Irak aujourd'hui.
Alors, les bombardements américains n'ont pas visé seulement les appareils militaires de l'Irak, il s'agissait aussi de briser les infrastructures du pays et aussi les puits de pétrole.
Je m'installe à Kuwait City, le lendemain matin, très tôt, je suis allé vers ce camp de pétrole. C'était très spécial, parce qu'à cette époque, on n'avait pas de GPS. J'avais une idée, quelqu'un a fait un schéma manuel de où c'était le camp de pétrole, comment arriver. J'arrive sur une surface énorme pour voir à peu près 600 puits de pétrole qui brûlaient. C'était quand même un espace considérable. J'avais une boussole et je me viens dans un monde irréel. J'étais dans un monde, vous savez, ce matin que j'arrivais là-bas, c'était très obscur. Il y avait des moments qu'on avait 3-4 jours sans voir la lumière du soleil. Parce qu'il n'y avait pas de vent, les fumées étaient tellement lourdes, tellement denses, que la lumière du soleil ne passait pas.
C'est le photographe Sébastien Salgado qui raconte, qui était à ce moment-là pendant la guerre du Golfe, qui était dans la région, qui raconte ces raffineries détruites, 80% des raffineries détruites, la quasi-totalité des complexes pétrochimiques irakiens, mais aussi les ponts, les centrales électriques, les moyens de communication, les tribunaux, les gares d'autobus, les bureaux de l'administration. Au total, les pertes matérielles irakiennes sont évaluées à plus de 500 milliards de dollars. Combien de temps, Ferhat Alani, a-t-il fallu pour reconstruire tout ça? Et 30 ans plus tard, est-ce que l'Irak porte encore des stigmates physiques de cette guerre-là, celle de 1991, quand vous allez sur place?
Oui, tout à fait. En fait, l'Irak n'a jamais récupéré de ces destructions qui ont commencé en 91. Vous l'avez dit, les bombardements ont visé les centrales électriques, les centrales hydrauliques. Depuis 91, il est très difficile de trouver de l'eau potable en Irak. Aujourd'hui, donc 30 ans après ces bombardements, l'Irak a 3 heures en moyenne de courant par jour. Tout le reste est géré par des petits groupes électrogènes un peu partout dans tous les quartiers de Bagdad et des autres villes d'Irak. Donc oui, l'Irak, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'intervention certes légale sous mandat de l'ONU, mais moralement, je pense, condamnable, a fait chuter l'Irak. Et je pourrais même citer une phrase qui résume à elle seule, à mon sens, cette intervention. C'était James Baker, je crois qu'il était secrétaire à la défense de l'administration, de Bush père à l'époque, il me semble, qui avait annoncé que l'Irak allait revenir à l'âge de pierre. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé, sans oublier qu'après cette intervention, Un des embargos les plus durs au monde a été imposé à l'Irak, où, je le rappelle, on n'avait même pas le droit d'importer des mines de crayons à papier, par exemple. Et je ne parle pas des médicaments et du reste. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir aller en Irak quand j'étais enfant, avant la guerre, puis ensuite, durant l'embargo, et j'ai constaté moi-même sur place la misère économique et sociale qui s'est installée au fur et à mesure des années, avec cet embargo qui a été implacable, et ceux qui ont payé, pardon, ce sont les Irakiens, et pas du tout le régime de Saddam Hussein.
Jean-Paul Chagnolleau, après une enquête auprès des responsables du Pentagone, c'était le Washington Post qui avait révélé peu après la fin de la guerre que les 43 jours de bombardement américain sur l'Irak, au rythme de plus de 2000 sorties par jour, ne visaient pas seulement à faire au plus vite pour limiter les pertes côté allié, mais aussi à infliger à l'Irak des destructions telles que Bagdad ne pourrait pas les réparer sans aide étrangère. Les États-Unis voulaient mettre l'Irak sous tutelle. Pourquoi ?
Écoutez, on peut dire ça comme ça. Et en même temps, je crois qu'il faut bien comprendre que depuis les années 70, l'Irak a toujours été en guerre, sous une forme ou sous une autre. C'est-à-dire que le régime de Saddam Hussein a dans cette affaire, c'est pas pour dédouaner les uns ou les autres, c'est pas mon problème, mais la responsabilité propre du régime de Saddam Hussein est absolument écrasante. Il y a eu, dans les années 70, la répression contre les Kurdes qui a continué, on en reparlera tout à l'heure peut-être.
Allez-y.
Au moment, par exemple, de 1988, où le pouvoir a organisé plusieurs opérations pour écraser les Kurdes et faire des dizaines de milliers de morts, y compris en utilisant des armes chimiques, par exemple à Al-Abja en mars 1988. Donc ça, c'est à l'intérieur. Il y a eu la répression des chiites en 1991, juste après la guerre dont nous parlons, parce que justement Bush n'a pas voulu aller jusqu'au renversement de régime, mais il a encouragé et les Kurdes et les chiites à se rebeller. Résultat, ça a été une répression absolument terrible. Bon, et puis ensuite, il faut pas oublier qu'il y a eu la guerre de 2003, l'agression américaine, là pour le coup, alors totalement illégale, car le George Bush fils, cette fois-ci, a essayé de passer par le Conseil de sécurité, la France a dit non, et donc c'est une guerre absolument illégale, et pour le coup, c'est une agression au regard du droit international, et puis aujourd'hui, on voit dans quel état l'Irak. Donc, il faut bien reprendre l'histoire longue, depuis les années 70, ce pays, alors que c'est un pays, juste encore un mot, ce pays avait toutes les possibilités dans les années 70 pour être un grand pays sur le plan industriel, sur le plan politique, et il s'est effondré très largement en raison des politiques conduites par Saddam Hussein.
Voilà, c'est ce que je voulais vous demander, puisqu'on parle là, dans le magazine du week-end, des plaies encore ouvertes de la guerre du Golfe. Sans la guerre du Golfe, est-ce que l'Irak serait aujourd'hui une vraie puissance régionale ?
Écoutez, je crois que il faudrait à ce moment-là faire l'impasse sur la guerre contre l'Iran. Il faudrait faire l'impasse contre la guerre de 2003. Donc je veux dire, il faut vraiment prendre l'histoire longue. Donc je pense que l'Irak aurait pu devenir une puissance régionale vraiment importante sur tous les plans dans les années 70 si le régime de l'époque avait suivi un tout autre chemin. Alors peut-être la démocratie, ça a été évoqué tout à l'heure, la violation des droits de l'homme était quelque chose de terrible. Et là aussi, les Occidentaux fermaient les yeux, mais enfin c'était un pays qui était riche, qui était relativement peu peuplé. À l'époque, l'Irak compte environ peut-être 10 millions d'habitants, aujourd'hui il y en a 4 fois plus. Il avait des ressources agricoles, c'est le croissant fertile, il avait une capacité de développement touristique, hein. La Mésopotamie fait encore rêver aujourd'hui. Je veux dire, c'était un pays qui dans les années 70 pouvait devenir une puissance importante, et tout s'est effondré au fil de cette guerre tragique.
Ferhat Alani, quand les Irakiens parlent, on les a évidemment entendus, vus manifester par milliers juste avant la crise sanitaire, contre la corruption, pour un meilleur partage des richesses. Est-ce qu'aujourd'hui, ils portent les Américains et leurs alliés toujours responsables de la situation actuelle ? Et quand ils parlent de ça, est-ce qu'ils pensent plutôt à 1991 ou à 2003, l'invasion américaine post-11 septembre, qui, elle, contrairement à la précédente, a abouti à un changement de régime ?
Vous savez, moi, je suis né en 1980, alors j'ai eu la chance de naître en France, mais tous ceux de ma génération qui ont grandi en Irak sont nés dans la guerre. Donc aujourd'hui, ceux qui manifestent, alors il y a effectivement les très jeunes qui ont 20 ans, mais il y a aussi ceux qui ont la trentaine, la quarantaine, ont tous en tête leur enfance sous la guerre, et ensuite les bombardements en 91, puis l'embargo, etc. Donc évidemment, ils mettent tout ça dans le même panier, ce qui est compréhensible. Et effectivement, comme le disait monsieur, il faut regarder l'histoire longue, et évidemment que Saddam Hussein était un dictateur. Mais quand on évoque la question, par exemple, du Koweït, on peut même remonter à 1958 avec le coup d'État du général Qassem, qui déjà revendiquait le territoire koweïtien. Donc on peut toujours remonter aussi au mandat britannique, les Britanniques ayant tracé la frontière entre le Koweït et l'Irak, Koweït qui était une province irakienne sous l'Empire ottoman. Donc en fait, on peut remonter très loin au niveau de l'histoire, mais pour revenir à votre question, ceux qui manifestent aujourd'hui ne manifestent pas seulement contre la corruption et et ne demandent pas seulement les droits les plus basiques, encore une fois, comme l'électricité, l'eau potable et puis du travail. Ils sont en colère contre ces 40 dernières années de guerre, de destruction, de chaos et d'impossibilité de construire quelque chose à partir de quoi que ce soit, parce qu'à chaque fois, que ce soit le régime de Saddam Hussein ou les interventions occidentales, l'Irak a été empêché de se développer pour différentes raisons. Et je pense que c'est très important d'évoquer l'idée qu'aujourd'hui, on est en 2020, 30 ans après l'invasion du Koweït, on a maintenant accès à des documents, que ce soit via Wikileaks ou des documents déclassifiés, qui montrent que l'intervention de 91 n'était pas seulement une réaction à l'invasion du Koweït. Je tiens vraiment à le préciser, et il y a des documents qui l'attestent. L'Irak devenait trop gênant. L'Irak, qui était un ami, un allié des États-Unis, devenait trop gênant, trop indépendant, et effectivement était riche, avait le pétrole, les cerveaux, l'agriculture, et donc devenait trop gênant. Il a fallu ralentir, voire détruire l'évolution de ce pays pour des questions géopolitiques.
Alors Jean-Paul Chenelot, rapidement, puis après on ira voir les conséquences aussi dans la région.
On n'aura pas le temps, mais je ne crois pas trop à cette thèse qui a été, en quelque sorte, on a voulu la destruction d'Irak. Je pense que, là encore, je pense que les facteurs internes et la décision de Saddam Hussein de ne pas revenir en arrière est quand même tout à fait importante. Et en particulier, tout à l'heure, on évoquait, vous avez cité François Mitterrand. Et François Mitterrand a vraiment tout fait pour essayer, puisqu'il avait une certaine relation avec l'Irak, comme disons la classe politique française.
En tout cas, c'est ce qu'il dit. On est allé au bout des discussions.
Oui, oui. Et je crois que c'est vrai. Je crois qu'il y a eu pas mal de missions diplomatiques qui sont parties, plus ou moins indiscrètes, pour essayer d'empêcher ça. Et je pense que Saddam Hussein aurait pu lever le pied, car il faut pas oublier que les premières résolutions des Nations Unies, ça date du 2 août, effectivement, mais l'ultimatum ensuite n'est fait qu'au mois de novembre, et l'ultimatum durait jusqu'au 15 janvier. Donc on aurait pu avoir une autre solution s'il avait accepté de se retirer, et je crois qu'il ne faut jamais oublier ça.
Jean-Paul Chenelot, le Koweït à l'époque était considéré dans le monde arabe comme un vassal des États-Unis déjà, et beaucoup lors de l'invasion irakienne au Koweït croient à une sorte de réveil de la nation arabe. Sauf que 90, c'est aussi un moment de désunion dans le monde arabe. La Syrie bassiste, par exemple, elle engage des troupes contre Saddam. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui lire les répercussions de cette guerre du Golfe plus largement dans le monde arabe et encore aujourd'hui?
Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est très difficile d'isoler cette guerre. Car après, comme ça a été évoqué, c'est très important, il y a eu l'embargo pendant des années, jusqu'en 2003 pratiquement. Hein, un embargo qui a été terrifiant pour la population civile. Et puis on a eu l'agression américaine de mars 2003. Donc on peut pas comme ça isoler une guerre qui s'est poursuivie d'une autre manière par l'embargo, puis ensuite il y a eu cette agression de mars 2003. Par conséquent, les conséquences, elles sont multiples, mais on peut pas comme ça les raccrocher forcément à cela. Alors il y a peut-être deux. Allez-y.
Non, parce que pour donner raison à Ferhat Alani qui nous écoute, c'est vrai que quand George Bush décide d'envahir l'Irak, de bombarder l'Irak, il parle d'un nouvel ordre mondial qui va advenir. Donc il y a quand même le père, bien sûr.
Mais les deux.
En 2003.
En 2003 aussi. Il s'agissait de créer un nouveau Moyen-Orient. C'est-à-dire que ça, c'est des fadaises politiques.
Mais d'abord. Ferhat Alani.
C'est pour ça que je parlais de cette intervention qui est très importante en 91, qui modèle en fait le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Mais moi, je voudrais pas qu'on fasse passer pour un défenseur de Saddam Hussein. C'est pas du tout ce que je veux faire passer.
Non, je crois que personne n'a entendu ça.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'attitude de Saddam Hussein, à mon sens, et pas seulement à mon sens d'ailleurs, c'est certifié par des documents. Hein, je n'évoque pas une théorie comme ça. Il y a des documents maintenant qui sont disponibles en ligne, hein, sur via Wikileaks. Et je tiens même à citer Jean-Pierre Chevènement, hein, qui était ministre de la Défense à l'époque, qui était quand même bien impliqué dans le dossier et qui disait lui-même que l'Irak avait été piégé, que les États-Unis voulaient se passer d'un gendarme régional que Saddam Hussein devenait insupportable et qu'il y avait le bon vieil allié saoudien à côté, et que c'était aussi l'occasion d'installer des troupes américaines sur place pour longtemps, et on le voit encore aujourd'hui.
Et qui sont toujours là.
Après, les Américains sont en place.
Jean-Paul Chagnolleau, cette alliance américano-saoudienne...
Et pardon, je voudrais juste terminer là-dessus par rapport au rôle, excusez-moi, de l'Iran aussi, qui aujourd'hui... a pris la place, si je puis dire, des Américains en Irak, quand on sait, quand on voit, surtout, et lorsque l'on constate qu'ils contrôlent toutes les strates de la société irakienne aujourd'hui, sur le plan politique, économique et social.
Oui, alors ça fait... Alors, Jean-Paul Chagnolleau, pour prendre les questions les unes après les autres, d'abord, l'alliance américano-saoudienne qui perdure encore aujourd'hui, elle date de cette époque-là, de la guerre du Golfe?
Non, elle est bien antérieure.
Parce que c'était pas rien pour le roi Fahd, à l'époque, de permettre aux États-Unis de faire atterrir tous leurs F-5, F-15 Eagle, etc., et des milliers de troupes.
Cette alliance entre Washington et Riyad date de la Seconde Guerre mondiale, 1945. Donc, c'est quelque chose de très ancien. La sécurité, des Saoudiens était assurée par les Américains, et la sécurité énergétique des Américains était assurée par l'Arabie Saoudite avec le pétrole. Donc cette alliance, elle remonte bien avant. C'est pour ça que j'ai tendance à relativiser. Je ne dis pas que cette guerre n'est pas très importante. Ça a brisé l'Irak, bien entendu. Mais je veux dire, c'est tellement... Ça doit s'inscrire dans un contexte beaucoup plus... global. Et si on prend juste un exemple par rapport à la guerre de 91, c'est la question kurde. La question kurde, c'est en 1988 que le régime de Saddam Hussein, c'est-à-dire à la fin de la guerre contre l'Iran, c'est à peu près au même moment, entre mars et puis septembre 88, l'opération Anfal va faire environ 150 à 200 000 morts dans des conditions absolument atroces. Et ça, c'est vraiment la répression par le régime de la question kurde et des Kurdes.
Mais alors, qu'est-ce qu'elle a changé, la guerre du Golfe, pour les Kurdes d'Irak et plus généralement de la région?
Là, il y a eu une réaction. Alors, on est vraiment... Alors, on peut aussi interpréter ça d'une autre manière. Mais en tout cas, ce qui est fondamental, c'est que là, c'est un écrasement des Kurdes en 1988. On est donc avant la guerre. Bon, et cette guerre, donc, qui va se faire en janvier-février 1991, va avoir des répercussions sur la question kurde, parce que lorsque George Bush va dire à Saddam qu'il peut réprimer les uns et les autres, eh bien, il va y avoir une protection des Occidentaux sur le Kurdistan avec des zones de protection aérienne, ce qui va permettre d'avoir un Kurdistan autonome. Et ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui pour un Kurdistan de plus en plus autonome.
Jean-Paul Chagnolleau, puisqu'on parlait de l'Arabie Saoudite, cette guerre du Golfe, elle acte par ailleurs le divorce entre l'Arabie Saoudite, qui donc va accueillir des troupes américaines sur son territoire, et Ben Laden, qui jusqu'à présent était soutenu par le royaume saoudien. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'Al-Qaïda n'aurait jamais existé sans la guerre du Golfe, et que globalement la chute de Saddam Hussein a aussi accéléré les mouvements islamistes?
Mais vous savez, là aussi, nous sommes dans un registre où il faut regarder les guerres, malheureusement. Et là, ce que vous évoquez, c'est lié à la guerre d'Afghanistan. En Afghanistan, fondamentalement, Ben Laden, il vient d'Afghanistan, et c'est là qu'il a fait ses premières armes, si j'ose dire, au sens propre du terme, d'ailleurs. Donc, vous voyez bien, je crois qu'il faut bien penser plutôt l'imbrication de ces guerres. Il n'y a jamais une guerre qui se termine vraiment sans qu'une autre commence. Et l'Irak est au cœur de tout cela. Et tout à l'heure, ça a été dit très, très, très justement. Il y a donc au moins deux générations successives d'Irakiens qui n'ont rien connu d'autre que la guerre. Donc, tous les gens qui sont nés depuis 70 n'ont pas connu autre chose que la guerre.
Et en revanche, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, vous vouliez, Jean-Paul Chagnolleau, conclure en parlant, en matière de droit international, de ce que la guerre du Golfe a eu comme conséquence. Les accords d'Oslo, c'était juste après. Vous êtes spécialiste de la question palestinienne.
Je crois qu'on peut le signaler parce que c'est intéressant. En quelques mots, James Baker, qui était le secrétaire d'État américain, a été très critiqué en disant, voilà, vous appliquez le droit international quand le Koweït est envahi, mais pas quand la Palestine est occupée. Et James Baker a répondu, mais pas du tout, je vais m'occuper de la Palestine après cela. Et effectivement, on l'a pas cru au début, mais il a réussi à organiser une grande conférence, la seule vraiment dans l'histoire du conflit israélo-palestinien à cette époque-là, c'était la conférence de Madrid en novembre 1991. Et un lien très fort qui a fait que cette réunion entre Arabes, Palestiniens et Israël a pu se faire. Et donc c'est lié à cela aussi. Ça, c'était un aspect positif. Malheureusement, on connaît la suite, le naufrage des accords d'Oslo par la suite.
Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir été avec nous. Jean-Paul Chagnolleau, parmi les nombreux ouvrages que vous avez signés ou dirigés récemment, on peut citer Les frontières revisitées, héritage, fragmentation, recomposition, hiérarchie aux éditions L'Harmattan, et puis l'année dernière, Proche-Orient, 7 ans de régression, 2012-2019, donc chez L'Harmattan. Et puis, merci beaucoup Farah Talani d'avoir été avec nous en liaison depuis Dubaï. Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter franco-irakien, le Parfum d'Irak, votre roman graphique aux éditions Nova, est aussi une web-série documentaire et vous venez de publier un nouveau roman graphique, Fallujah, ma campagne perdue, aux éditions Les Escales. Merci à vous deux et bon dimanche à vous. Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Jules Crétois, Alia Tovine, que je salue, tous les deux, Léo Grillet et Lucas Lazo, réalisé par Guillaume Baldi. Merci à Odile Jouessel pour les archives sonores. À la prise de son, c'était Ludovic Auger.